franceinter.fr.
Tariq Nouhi est écrivain, dramaturge, scénariste et passionné de photographie. Son dernier roman, À nos pères, adapté d'une fiction écrite pour France Culture, est paru en 2012 aux éditions Inculte. Sa dernière pièce, Drôle d'endroit pour nourrir les chiens, est toujours jouée au théâtre etc. à Moscou. En collaboration avec la compagnie SF, il écrit sa prochaine pièce, Suée sur des draps propres.
La fille aux allumettes, de Tariq Nouhi.
Je maîtrise mon corps. Mon corps me maîtrise. La maladie maîtrise mon corps. Mais je ne suis pas malade. Je maîtrise mon corps et le monde dans mon corps. Je suis le poids et la mesure. Je suis le poids et la mesure.
C'est ici, là, sur ta hanche. Tu vois ? Regarde. Comme ça, tu peux bien voir. Là aussi. Regarde ton ventre. Tu vois ce pli ? Moi, je le vois bien. Il est énorme, je crois.
Je maîtrise mon corps, de haut en bas et de bas en haut. Je maîtrise mon corps trop grand, trop vaste pour moi. Je veux habiter la minuscule demeure de l'absence. Je veux habiter cette demeure, petite demeure. Je veux sentir les parois de mon corps, les murs de mon corps tout contre moi, pour me protéger du grand dehors qui ne veut pas de moi.
Tu n'y es pas encore. Pour l'instant, il y a toujours ce bourrelet sur ta fesse, en dessous, là. Tourne-toi mieux pour le voir. Et cet espace entre tes deux cuisses, il est trop fin. Elles se touchent presque. Tu ne voudrais pas sentir tes cuisses qui se frottent l'une contre l'autre quand tu marches, n'est-ce pas ?
Il n'y a jamais assez d'espace entre mes cuisses. Il y a toujours quelque chose qui reste caché là dans mes viandes. J'aimerais avoir des allumettes à la place de mes grosses cuisses. De fines allumettes, bien droites.
Utilise ta balance. C'est la graduation mécanique ou l'électronique. Tu veux quoi ? Dis-moi. Je suis là pour toi. Tu sais bien.
Pas de balance. Pas de miroir. C'est pour mon bien, c'est ce qu'ils m'ont dit.
Je sais que tu meurs d'envie de savoir. Il te faut une balance très précise. Il faut que tu saches. 10 grammes en 10 grammes. Il te faut une balance. Des graduations en grammes, en milligrammes, en microgrammes. Le poids de ton corps, c'est important.
Je prends trop de place. Je suis grosse, trop grosse. J'ai trop de chair hors de moi qui me déborde et m'empêche de respirer. Je suis un monstre. Il me faut une balance. Une balance! Vite! Je sens venir en moi la peur chargée de
ce gras
qui entoure et m'envahit et entre en moi. Je maîtrise mon corps. Une balance, vite, s'il te plaît. Il faut que je sache. Il me faut une balance. Je maîtrise mon corps. Mon corps me maîtrise. La maladie maîtrise mon corps. Mais je ne suis pas malade. Je maîtrise mon corps et le monde dans mon corps. Il me faut une balance.
Et un miroir aussi. Un grand miroir. Pour te voir en entier. Tu vas pouvoir te mettre nue et détailler ton corps.
Pour voir mon dos, mes fesses, mes cuisses. Il faut que je surveille. Que je contrôle tout ça. Un gramme, et c'est la saleté du monde qui entre en moi, me pénètre et m'arrache à sa faim vorace. Le monde a faim pour moi, et moi je ne veux plus de lui. J'ai peur. Mon ventre est énorme, je ne comprends pas comment on peut être si énorme et si fatigué. Comment c'est possible ?
Bonjour. Ça sent brûlé, non? Tu sais, on peut pas avoir de briquet ici. On n'a pas le droit de fumer non plus. Enfin, ce sera plus tard quand t'auras repris un peu de poids. Hein? T'auras le droit à une heure de sortie. Tu pourras peut-être fumer, mais ici c'est pas possible. Tu comprends? Tu veux toujours pas qu'on ouvre les volets? Non? Tiens. Je te laisse ce cahier. Tu vas pouvoir écrire ce que tu veux dedans. C'est important. Tes pensées, ce que tu ressens. On t'a expliqué que c'est très utile pour la suite. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu saches que tout ce qu'on fait, c'est pour ton bien. Je te laisse. Si t'as besoin de quelque chose, tu fais sonner.
Alors ce miroir, il est où?
Tu es certaine? Il faut que tu sois certaine.
Je veux voir à quoi je ressemble. Ça fait trop longtemps. Je veux voir comment j'encombre l'espace de cette chambre. Elle est petite cette chambre ou c'est moi qui suis trop grosse?
Tu connais la réponse. Tu te connais. Question idiote. Regarde-toi. C'est évident que ce n'est pas la pièce qui est trop petite.
Toute cette chair sur la chair en abondance, sur de la chair et du gras et de la chair encore, et aussi le gras qu'il y a en moi, sous ma peau.
Des cellules adipeuses, laides, adipeuses. Tu entends comme ça colle entre les lèvres ce mot, adipeuse.
Adipeuse.
Comme gras, gras.
Gras. Gras.
Ça reste au fond de la gorge comme un dépôt. Je le sens comme un dégoût.
Comme je vous l'ai dit, votre fille est en très sévère dénutrition. Ce qui a comme conséquence une aménorrhée.
Hein? Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire qu'elle a plus ses règles. Il l'expliquait la dernière fois, mais tu n'étais pas là. Je te l'ai dit.
Et quoi d'autre?
Comme vous vous en doutez, elle souffre de divers troubles digestifs. Du fait de ne plus vouloir se nourrir et à force de se faire vomir. Elle souffre aussi de bradycardie, c'est-à-dire un rythme cardiaque très lent. Et aussi d'hypothermie. Je ne vous cache pas que son cas est très inquiétant. Elle ne veut plus parler au personnel soignant ni à la psychologue. Elle ne veut parler à personne. Son état est grave.
Gras. Gras. Gras.
Ça me dégoûte. Gras. Ça me donne gras. La nausée, arrête.
Gras.
Je vais vomir, arrête.
Rien ne soulage autant que de vomir. Les gens ne vomissent pas assez. Ils gardent toujours tout en eux et ils se mettent à ressembler à des sacs de pourriture. Tiens, regarde. Tu vois?
Je veux plus voir. Ça me dégoûte. J'en peux plus. Tu me fatigues, tu m'épuises.
Tu mens. Ça te fait du bien. Ça te rassure. Et ça te soulage.
On peut la voir? Peut-être que...
Nous en avons déjà parlé lors de son internement. L'éloigner de sa famille un temps est une bonne chose.
Oui.
C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est la meilleure chose à faire.
On ne lui a jamais fait de mal, pourtant. Elle a tout ce qu'il lui faut.
Je n'en doute pas, monsieur. Je ne suis pas en train de dire que vous lui avez fait du mal. Mais le cas de votre fille est complexe, vous savez. Comme tous les cas similaires. Et souvent, on retrouve une cause parmi d'autres qui est familiale. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, sans doute, mais, comment dire, il y a des sensibilités extrêmes qui réagissent à des événements, des paroles ou des actes qui peuvent sembler futiles pour d'autres. Mais nous savons par expérience que ce temps où le patient se retrouve seul pour réfléchir à ce qu'il ressent fait partie de la thérapie qui mène à la guérison. Il y a parfois, après un temps plus ou moins long, il y a un déclic, quelque chose qui...
Docteur, je peux vous parler?
Veuillez m'excuser un instant, s'il vous plaît.
Oui.
Je comprends pas, quoi. Elle a toujours eu ce qu'il faut. On est bien tous les trois, non? Non?
Je sais pas.
Comment ça, tu sais pas?
Écoute, c'est pas le moment de parler de ça.
Mais comment ça, tu sais pas? Y a quelque chose que tu veux pas me dire?
Non, non, je te jure, je... Bon, j'ai dit je sais pas, parce que c'est vrai. Je sais pas si on est bien tous les trois. La preuve, hein, elle est là. Et si elle est là, c'est qu'il y a un problème, tu comprends?
Oui, il y a un problème.
Elle a encore vomi, docteur. Elle a failli s'étouffer avec la sonde.
Elle vous a parlé?
Non, pas un mot. Elle veut rester dans le noir. Elle refuse qu'on ouvre les volets, sinon elle hurle. Le reste du temps, elle est complètement mutique. Pourtant, parfois, quand je rentre dans la chambre, elle est en train de parler, de chuchoter. Et puis, il y a cette odeur à chaque fois qu'on vient la voir.
Une odeur?
Oui, comme si l'on brûlait quelque chose. Une odeur d'allumette.
Vous l'avez fouillée à son arrivée?
Oui, on lui a tout enlevé, j'en suis certaine. J'ai regardé partout.
Bon. Vous me réglez cette histoire, je ne veux pas qu'elle déclenche un incendie. Pour le reste, son état clinique, il va falloir la surveiller de près.
Ça vient de sa chambre.
Moi, je ne te mens pas. Je te montrerai toujours ce qui ne va pas en toi. Je te montrerai toujours la vérité de ton corps informe. Tu m'entends?
Je suis fatiguée maintenant. Mais je veux pas dormir, pas maintenant. J'en peux plus de t'entendre. Tu n'es jamais satisfaite de moi.
C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Le long sommeil. Tes paupières sont lourdes. Ton sommeil est lourd. Tout est lourd. Il faut que tu dormes.
Je suis encore trop lourde. Trop lourde.
Tu rêves d'un autre corps qui te ressemble? Un corps parfaitement frêle et presque inexistant? Un corps discret et fuyant? Tu rêves de bras fins? Fins? De ventre creux? Tu rêves et tu rêves, mais il faut dormir pour ça. Il faut se laisser aller.
Je suis si désolée d'être là. Si fatiguée d'essayer d'être présente.
Un, deux,
simplement
trois.
Présente.
Allez, allez, allez.
Je suis
allez,
la
encore,
soustraction
encore.
Du monde.
Un, deux, trois. Allez, viens.
Je voudrais tant ne
et
pas être un fantôme.
Tout le monde recule. Attention. Un. Deux,
je voudrais tant
trois.
Que les choses ne me traversent pas. Je voudrais tant que le monde me percute. Que l'amour me percute et la tristesse aussi. Et que la vie tout entière me fracasse. Je voudrais tant sentir les choses venir et entrer et tenir dans mon corps. Je voudrais tant que l'or et le sang circulent dans mes veines.
Mais tu es encore trop grosse. Trop grosse. Trop grosse. Tu me déçois.
Je voudrais...
Reste avec nous.
Je voudrais tant
que
des voix se mélangent dans ma tête et que le sourire vienne comme la faim dans mon ventre, comme la soif. Je voudrais tant vouloir et rester accueillante avec moi-même. Je voudrais, dans un miroir, voir ma présence et la sentir et la toucher. Je voudrais sortir de ma tanière froide et triste que je croyais être un refuge, alors que ce n'est qu'une armure de sel qui me brûle de l'intérieur.
Bon, elle revient pas, on va essayer encore, mais je sais pas si son corps va supporter.
Elle est à la limite. Elle est tellement maigre. On dirait un fantôme.
Non. Je ne veux pas être un fantôme. S'il vous plaît. Je ne veux pas. Je suis vivante. Je ne veux pas disparaître totalement. Pour toujours.
Ne les écoute pas. Dors. Laisse-toi aller. Tu es encore trop.
Arrête. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus t'écouter. Tu n'es rien. Je ne veux pas me laisser aller.
Il faut que je t'éclaire. Que je te montre tes imperfections.
Tu as dit que j'étais trop grosse. Trop pesante. Et regarde comme ils me prennent et me manipulent sans effort. Comme je ne suis plus rien entre leurs mains. Regarde comme ils écrasent ma poitrine. Comme ils ont peur de me briser. Je sens leurs mains sur mes os. Je sens leurs mains sur mes os qui craquent. Tu m'as menti. Je ne suis pas grasse.
Pourtant, je vois tes bourrelets. Ton trop plein qui déborde tant.
Tais-toi. Je resterai là. Ici. Tu peux ranger tes feux tristes. Je n'ai plus besoin de me voir dans ton mensonge. Ça sera un long chemin, mais je n'en ai plus besoin.
Mais tu as besoin de moi. Reste.
Range tes allumettes, je te dis. J'en ai plus besoin.
C'était Nuit Noire, Patrick Liégibel, La fille aux allumettes, de Tariq Nouhi. Avec Camille Clarisse, Camille de Sablé, Charlie Nelson, Françoise Gazio, Wolfgang Pissor, Erad von Meyer, Raresh Yenasoaï. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourland, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossier. Dans un instant, une seconde nuit noire. L'homme qui hurlait malgré lui, de Stéphane Michaka.
Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with a ceaseless longing, lover yearning to belong. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo, sing cuckoo-doo-coo. And I weep like a child for the passing. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Listen to me, son, I'll tell you why your father's strong. 'Cause he can still say every single day he's yearning to belong, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with a ceaseless weeps with a peaceless burning to belong. Sing cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo, sing cuckoo-doo-coo.
Patrick Liégibel.
Stéphane Michaka est romancier, auteur de polars comme Elvis sur scène ou encore La fille de Carnegie, une plongée nocturne dans un New York rempli d'air d'opéra. Son roman Ciseaux, paru chez Pocket, raconte les boires et déboires de l'écrivain américain Raymond Carver. Pour France Culture, Stéphane a signé des adaptations frissonnantes de Kafka et de Bram Stoker. L'homme qui hurlait malgré lui et sa deuxième nuit noire.
Vous connaissez ma voix. Vous l'avez entendue plus d'une fois. Je peux même affirmer, sans risque d'erreur, que je me suis glissé dans certains de vos cauchemars. Je n'en tire aucune fierté, aucun motif de gloire. Oui, je me serais bien passé de tout ça. Mettez-vous à ma place. Vous supporteriez, vous, de traîner jour après jour le poids d'une seule seconde de votre vie ? J'aurais préféré qu'on m'arrache la langue avant cette seconde-là. L'insignifiante petite seconde qui a fait de moi une célébrité et un être à jamais obscur.
L'homme qui hurlait malgré lui, de Stéphane Michaka.
Mon nom est Cheb. Cheb Goulet. Vous n'avez jamais entendu ce nom, c'est normal. Tout a été fait pour qu'on l'oublie. Cheb Goulet n'est aujourd'hui qu'une maigre silhouette. Un épouvantail que des mains agiles brandissent et manipulent dans le noir. Il n'en a pas toujours été ainsi. Lorsqu'il avait 20 ans, Cheb, le petit gars que j'étais alors, n'avait rien de repoussant. Il pouvait croire en sa bonne étoile, la preuve. Il avait réussi à séduire Polly, Polly Summers, la plus jolie fille du patelin.
Salut,
Cheb. Oh, salut, Polly.
T'as la figure toute blanche. On dirait un clown.
C'est de la farine. J'ai encore 10 bocaux à remplir. Monsieur Bentley est trop vieux pour soulever les sacs.
On dit qu'il va prendre sa retraite et qu'il trouve pas de successeur.
Pas étonnant. Qui a envie de tenir une épicerie dans ce patelin?
Tu veux pas?
Devenir épicier? Pourquoi pas révérend? Oh, excuse-moi.
Mon père aimerait te voir plus souvent à l'église. Moi aussi, d'ailleurs.
Polly, tu sais bien qu'à l'heure de la messe...
Je sais. Tu empruntes le pick-up de Gus et tu vas au Majestic.
J'aimerais t'y emmener. Il passe la féline en ce moment.
Pas question, Cheb. Mon père me laissera jamais. Dans ses sermons, il dit que le diable est à Hollywood.
C'est des superstitions. On est en 1942. Le diable est en Allemagne, si tu veux savoir. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Papa dit que tu devrais être au front.
Ah ouais?
Il dit que t'aurais dû te battre avec les gens de ton âge à Pearl Harbor au lieu de te planquer dans l'épicerie de Gus Bentley.
Moi? Un planqué? Le révérend Summers ferait bien de tenir sa langue.
Parle pas comme ça de mon père.
Ce vieux grognon, superstitieux.
Cheb.
Je lui montrerai, moi. Je leur montrerai à tous. Un jour, ils entendront parler de moi.
Tu pourrais avoir ton nom sur l'enseigne, en haut de l'épicerie.
Il sera beaucoup plus haut que ça.
Où tu vas?
C'est l'heure de la pause.
Cheb.
Viens dans l'arrière-boutique.
Je vais en avoir plein les cheveux.
C'est comme ça qu'on s'est roulé dans la farine, Polly et moi. Nos corps, en se frottant l'un à l'autre, soulevaient des nuages de poudre blanche. Dans le feu de l'action, ses cheveux semblaient avoir prématurément blanchi. Mais ses pommettes étaient plus rouges que le pick-up de Monsieur Bentley. Ça ne semblait pas être la première fois pour elle. Je ne sais pas ce que le révérend Summers en aurait pensé. Polly, en tout cas, prenait la chose au sérieux. La tête renversée sur le plancher de l'arrière-boutique, elle m'a fait une confidence.
Tu sais quoi, Cheb?
Hmm?
J'ai droit à un vœu. C'est la liseuse de cartes qui me l'a dit.
La liseuse de cartes?
Celle avec les cheveux rouges. Elle était dans la caravane il y a 2 jours. Avant que mon père... Avant que le révérend la fasse chasser, elle et les fourrins.
Tu as parlé à une liseuse de cartes?
De tarot, ouais.
Et elle t'a dit...
Elle m'a prédit que mon vœu se réaliserait. N'importe quel vœu. Il faut juste que je le formule avant la fin du mois, Cheb.
On est le 31.
Ouais.
C'est quoi ton vœu?
Tu le devines pas?
Non.
Cheb. Tu sais que je suis en âge de me marier. Avec l'autorisation de mon père.
Il voudra jamais que tu m'épouses.
Si, Cheb. Il voudra bien. Si tu reprends l'épicerie.
Tu me prends pour un plouc, Polly. Tu me prends pour un bouseux, comme tous les gens de ce patelin. Demain, je serai loin. Je serai loin.
Tu veux dire...
Je pars à Hollywood, Polly. J'ai décroché un rôle. Je vais faire des voix dans un western. On enregistre demain.
Tu le savais quand tu m'as attiré ici?
Sois pas naïve. Tu m'oublieras. Tu m'oublieras vite. Souffle-moi dessus.
Que je quoi?
Je suis le sable qui file avec le vent.
Cheb Woolley. Tu veux filer à Hollywood? Tu veux former un pacte avec le diable?
Woolley.
Écoute-moi bien, Cheb Woolley. Écoute bien le vœu que je vais formuler. Tu ne seras jamais qu'une voix qui crie dans le désert. Un hurlement sans visage. Et sans nom.
J'ai très vite oublié Polly Summers. La fille la plus jolie et la plus superstitieuse du patelin. J'avais pas une minute à perdre. Hollywood m'attendait. Ma bonne étoile me suivrait. Oui, j'étais convaincu que du plus petit rôle, on pouvait faire quelque chose de grand.
Soldat mort du parrain Alligator, prise 1. Ça tourne.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Soldat mordu par un alligator, prise 1.
Ah, d'accord. Je dois faire un
soldat mordu par un alligator, prise 1.
Mais je fais le cri du soldat.
Bon, je pense pas qu'il faut donner une berceuse, hein, chérie.
Ça tourne.
Ma première apparition à l'écran ne fut qu'un cri. Mais quel cri! J'avais donné le meilleur de moi. J'avais arraché ce cri de mes entrailles en y mettant mes peurs les plus intimes.
Ouais, encore.
Ouais, tu nous en fais 5 ou 6, manchot, hein? Comme si tu mourrais plusieurs fois d'affilée. On y va.
On le sait peu, mais jouer, c'est refaire. Et refaire encore. Prisonnier du désir d'autrui. Jusqu'à cette formule magique qui vous libère.
Et c'est dans la boîte.
Même la script, pourtant habituée aux hurlements en tout genre, fut impressionnée.
Bon, alors la 5e prise était la meilleure. Ouais, la 4 et la 6 étaient presque aussi bien.
Dommage qu'on ne me voit pas à l'écran.
Bah, c'est juste un début, mon chou. Hein.
Pourriez pas me trouver un rôle devant la caméra? Pas juste derrière le micro?
Ouais, voyons voir. Oh, demain midi, un Indien abattu dans l'attaque d'un fort.
Parfait, je vous ferai ça.
J'ignorais qu'il était déjà trop tard.
De toute façon, reste plus que ça, alors.
Les mois qui ont suivi, j'ai mené mon enquête et j'ai fini par découvrir comment une insignifiante petite seconde pouvait surgir du passé et être répétée à l'infini. La conversation suivante s'est tenue dans une salle de mixage. Quelques jours après ma chute d'Indien abattu dans l'attaque d'un fort.
Bon, bah, c'était mes dernières cartouches.
Oh là là,
ils sont tous mauvais. Tu faisais quoi, Betty? Tu leur pinçais les fesses?
Je suis pas comme toi. Quand je bosse, j'ai les mains prises.
Bon, bah faut tout refaire.
Sauf qu'on n'a pas de studio.
Y a qu'à réutiliser...
Hein?
Cette bobine, là.
Laquelle?
Soldat mordu par un alligator, prise 5.
Ah ouais?
Sauf qu'il était tellement bien, on l'a déjà réutilisé sur l'Indien abattu.
C'est le même acteur.
Comment ça?
L'Indien abattu, c'est Cheb Woolley. Il crie mieux derrière le micro que devant la caméra.
Il faudrait mettre son cri dans toutes les scènes.
Bon, je lui demande de revenir.
Pas besoin.
Bah, comment ça?
On l'a, son cri.
Ils se sont passés le mot. Enfin, je veux dire, ils se sont passés mon cri. Non seulement la script avait une mémoire d'éléphant, mais elle travaillait avec tous les monteurs sons de la côte ouest.
Ouais, salut mon chou. Non, je peux pas venir au mixage demain, on tourne une étoile aînée. Mais te fais pas de bile, je t'ai mis la bobine dans le courrier. Tu sais, la bobine.
J'avais donné au diable...
Soldat mordu par un alligator.
Je lui avais donné d'emblée le meilleur de moi.
Prise 5.
Le diable l'a pris, et comme des petits pains, il l'a multiplié. Au centuple. La carrière de mon cri fut fulgurante. En très peu de temps, il s'est retrouvé, détaché de ma personne, dans une tripotée de scènes d'action. Attaque de diligence, villes incendiées, chute dans un précipice. Et quand les zombies ont envahi l'écran, mon cri a proliféré avec eux. Pendant ce temps, moi, je ne décrochais aucun rôle. Ce qui compte dans ce métier, c'est ce que vous venez de faire. Pas l'an dernier, pas il y a 6 mois, mais la veille ou le jour même. En désespoir de cause, pour essayer de me placer, j'ai dressé une liste, celle de mes 200 apparitions à l'écran.
Vous avez vraiment joué dans tous ces films ? C'est curieux, votre visage ne me dit rien.
Je ne suis pas toujours à l'image, mais on entend ma voix.
Bon. Eh bien, revenez demain, on fait des hurlements de foule.
C'est alors que les paroles de Polly me sont venues. Comme si elles s'étaient tapies dans ma mémoire des années durant et avaient attendu le bon moment pour me sauter à la gorge.
Tu ne seras jamais qu'une voix qui crie dans le désert. Un hurlement sans visage et sans nom.
Était-ce possible ? La prédiction s'était-elle réalisée ? Je ne pouvais pas le croire. L'histoire de mon cri dépassait en horreur la prédiction de Polly. La prise numéro 5, celle du soldat mordu par un alligator, à force d'être utilisée par tous les monteurs son du pays, greffée à tour de bras sur des images qui n'ont rien à voir, cette fameuse prise a fini par recevoir un nom.
Ah oui, 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 je vois, d'accord. Je te mets la bobine dans le courrier.
Ça fait 10 jours qu'on ne me l'avait pas demandé, celui-là. Le cri de Wilhelm.
Du nom d'un soldat recevant une flèche dans la 10e ou la 100e utilisation de mon cri. Vous avez bien entendu. Pas le cri de Cheb Houlet. Pas même le cri du soldat Jessup. Celui qui est happé par un alligator et entraîné au fond d'un marais. Non. Le cri de Wilhelm. Histoire de le détacher un peu plus de son auteur. Chaque fois que j'allais au cinéma, je me bouchais les oreilles pendant les scènes d'action. Entendre mon cri était trop douloureux. Au bout de 20 ans, mon cri avait fait le tour de la planète. C'était devenu un tel cliché que depuis quelque temps, une trêve était respectée. Les gens du métier essayaient de faire oublier le cri de Wilhelm pour pouvoir le ressortir un jour à nouveau. Moi-même, je ne savais plus bien à quoi il ressemblait. Jusqu'au jour où j'ai eu la drôle d'idée de prendre ma voiture, de rouler vers l'est et d'aller frapper à la porte de Polly.
Cheb ?
La fille du révérend était telle que je l'avais laissée 20 ans plus tôt. Sauf que ses cheveux, au lieu d'être blanchis par la farine, étaient blanchis par l'âge. Tout le patelin semblait décoloré par la poussière. La seule chose que j'avais retrouvée intacte en arrivant, c'était le pick-up de Gus Bentley. Garé devant la maison de Polly comme s'il lui appartenait. On aurait dit que personne ne l'avait conduit depuis mon départ.
Ça fait si longtemps.
Elle était habillée tout en noir. Je me suis dit qu'elle portait le deuil de son père. Dans le salon, au-dessus de la cheminée, le portrait encadré du révérend Summers fronçait les sourcils vers moi. Il pouvait être mort il y a 8 jours. Ou 8 ans.
Alors, raconte un peu, Cheb. Tu as trouvé ce dont tu rêvais à Hollywood ?
Eh bien...
Oui ?
Tu... Je ne sais pas.
Quoi donc ?
Tu ne vas jamais au cinéma ?
Cheb, tu sais bien que pour nous, le cinéma, c'est l'œuvre du diable.
Elle s'est penchée pour servir le thé. Dans un pâle rayon de lumière, j'ai cru entrevoir un sourire sur ses lèvres. Alors j'ai laissé tomber le bobard que j'allais faire sur mon brillant parcours d'acteur.
À vrai dire, Polly, je commence moi-même à croire que le diable est à Hollywood.
Vraiment ?
Elle m'a regardé avec une expression de pitié. J'ai soudain pris conscience que j'étais venu la voir avec l'espoir fou de défaire ce qui avait été fait.
Polly, le vœu que tu as prononcé devant moi il y a 20 ans, celui que la liseuse de tarot t'a accordé, est-ce que tu ne pourrais pas revenir dessus ? Est-ce que tu ne pourrais pas le reprendre ?
Cheb.
Parce que je suis plus que le fantôme de moi-même, tu comprends ? Un type qui hurle dans le désert et que personne ne voit.
Un épouvantail qu'on brandit dans le noir. Je sais même plus qui je suis, tu comprends?
Cheb, il n'y avait pas de liseuse de tarot.
Comment?
C'était des paroles en l'air. Les mots d'une gamine qui veut qu'on l'épouse.
Pas de liseuse de tarot, mais ton vœu a dû être entendu.
Bien sûr qu'il a été entendu. Mon père a de grandes oreilles.
Il m'a semblé que ses lèvres se tordaient légèrement. On aurait dit un rictus démoniaque.
Ton père, Polly?
Oui. Il m'a dit, et s'il refuse ta main, envoie-le en enfer.
Les yeux de Polly lançaient des éclairs.
Cheb Wally.
J'ai cru qu'elle allait me foudroyer sur place. J'ai marché à reculons vers la sortie. Je compris soudain combien j'avais été naïf en revenant ici. Polly Summers ne s'était jamais remise de mon départ. Elle avait racheté le pick-up de Gus comme une relique du passé. Au moment où je me suis glissé dehors, elle a lancé vers moi un bocal rempli de farine. Il s'est brisé en 1000 morceaux contre la cloison. C'est alors que j'ai entendu le cri de Wilhelm, poussé par Polly comme si elle en était le véritable auteur, comme si elle avait attendu toutes ces années pour en reprendre possession et me refouler à jamais dans le désert.
C'était Nuit Noire, Patrick Liégibel, L'homme qui hurlait malgré lui, de Stéphane Michaka. Avec Pascal Collin, Cheb, Camille Pellissier, Polly, Marie-Christine Horry, Betty, Clément Bondu, l'assistant, Christian Cloarec, le technicien. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossire.